dans l'actualité des idées aujourd'hui, après le déclin, la débâcle. Comment apprendre à vivre sans ? Invitée la philosophe Isabelle Stengers, enseignante à l'Université libre de Bruxelles. 2 ans après Civiliser la modernité, elle en publie aujourd'hui une version approfondie et remaniée à la découverte. Et c'est l'un des essais importants de cette rentrée, d'en réactiver le sens commun, concept qu'elle emprunte à Whitehead. Elle analyse la fracture entre un public spectateur et des sachants seuls à même de prendre des décisions. Et elle nous invite à faire sens en commun. Dans un récent livre d'entretien, Résister au désastre, le journaliste Martine Schaffner nous l'a présenté comme telle si elle a passé sa vie universitaire à déconstruire les prétentions autoritaires de la science moderne. Elle est également une intellectuelle en lutte, solidaire des mouvements sociaux émancipateurs, écoféministe de longue date et critique anticapitaliste des désastres écologiques en cours. Bonjour à vous Isabelle Stengers.
Bonjour.
Est-ce que cette définition, cette description vous convient ?
Elle est flatteuse, mais je l'accepte.
Voilà, vous serez tout ça à la fois, en tout cas. Depuis plusieurs jours, Isabelle Stengers, l'Australie est ravagée par les flammes. En voyant ces images, qu'avez-vous pensé ? Qu'il va falloir plus vite que prévu apprendre à vivre dans les ruines, pour reprendre l'expression d'Anna Tsing que vous utilisez ?
Mais je crois que le plus vite que prévu est à la fois quelque chose qui pèse sur tout le monde et puis qui va s'actualiser de lieu en lieu. Il y a des lieux en France déjà où plus vite que prévu des ruines se font et évidemment un continent comme l'Australie, ça nous choque. Et moi ça me choque, je pense d'abord aux aborigènes pour qui cette terre est le sens même de leur vie et du cosmos. Donc il y en a pour le premier ministre australien, je l'ai entendu hier je crois, oh c'est pas fini et ça va encore coûter cher, c'est une question de coût. Pour d'autres, c'est une question de vie et d'écroulement de leur monde. Donc oui, les ruines, ça veut dire beaucoup de choses différentes selon les lieux et selon qui ça concerne.
Vous citiez les aborigènes, on peut aussi parler des près de 500 millions d'animaux qui auraient trouvé la mort.
Exactement.
Depuis septembre, depuis ces incendies, 24 personnes tuées. Un air de fin du monde, hein. Voilà comment le journal Libération titrait ce week-end. Comment Alfred North Whitehead peut-il nous aider à penser ce moment, Isabelle Stengers? C'est un penseur que vous retrouvez ici pour ce livre. Il a développé, lui, le mathématicien britannique du début du XXe, une philosophie du process, et il semblerait qu'il ait compris avec elle très tôt la nécessité de voir le monde comme un réseau de processus interdépendants. C'est en cela qu'il peut nous être utile. Relire Whitehead aujourd'hui peut nous être utile.
Interdépendant, c'est extraordinairement important. Mais ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Finalement, les théoriciens du marché diraient aussi, ben, tout est interdépendant, c'est ça le marché. Whitehead est un philosophe dont je peux dire que depuis longtemps, après que j'ai découvert un peu par hasard, il m'a accompagné et il m'a aidé et forcé à penser. Je peux dire que si aujourd'hui je suis capable de parler de ces choses étonnantes, c'est qu'il m'y a préparé. Et dans ce livre, j'explore au fond cette efficace de la pensée de Whitehead, c'est-à-dire la manière dont il m'a aidé, mais il pourrait en aider d'autres. Il pourrait débloquer des dilemmes, des ou bien, des situations qui bloquent la pensée et passer à travers, avec humour et sans agressivité. Parce que l'agressivité, elle est tellement justifiée, mais tellement attendue. D'une manière qui décontenance ce qu'on aimerait agresser. Donc c'est un philosophe qui décontenance, et c'est un livre, parler de réactiver le sens commun, reparler du sens commun aujourd'hui, eh bien ça peut décontenancer. J'aimerais bien que ce livre décontenance et donc ouvre de l'espace pour la pensée.
Whitehead, à son époque, est-ce que c'était un anti-moderne ?
C'était un inquiet. C'était quelqu'un, au fond c'était un académicien, un académique comme moi, et il voyait déjà le déclin de la pensée. il était très effrayé, par exemple, par la montée de la, c'était dans, au 19e siècle, par le fait que, l'économie, disons, la productivité, etc., importait et que les valeurs, les qualités esthétiques, mais quand il dit esthétique, c'est aussi éthique, je veux dire, le sens de la beauté, le sens, un certain sens du bien incarné dans les situations, disparaissait. Donc, pour lui, la civilisation moderne était en état de déclin. Et ce qu'il tentait, c'était de réactiver le sens vivant du monde, là où, avait-il l'impression, la pensée théorique le tuait, le rigidifiait et paralysait la pensée. Comme on pense, on vit, a-t-il écrit. Et il était inquiet sur l'état de la pensée dès cette époque-là. Bon, aujourd'hui, on peut dire que, comme je l'écris, le déclin s'est transformé en débâcle. Et mon livre essaye de tester Whitehead à une époque où nous ne savons pas, en fait, si nous vivons la fin de la modernité ou une transformation de la modernité. Whitehead espérait une transformation, nous ne savons pas, et nous devons penser dans cette incertitude, est-ce que ce que nous vivons n'est pas le début de quelque chose d'autre à laquelle la modernité ne nous a pas préparés ?
Quelle différence entre le déclin et la débâcle ? On entend bien que c'est une étape supplémentaire qui a été franchie. Mais pour vous, pratiquement, comment ça se traduit ?
On sent un déclin. La débâcle, c'est quelque chose qu'on voit, à laquelle on s'assiste et qui arrive de manière plus brutale. Quand je pense débâcle, je pense au moment où la débâcle sur le Saint-Laurent au Canada, ces pièces de glace qui se déconnectent et puis qui s'entrechoquent, ça fait énormément de bruit, la débâcle. Et donc la débâcle, personne ne l'ignore et plus personne ne peut penser que ça va s'arranger. Le déclin, c'est quelque chose de plus insidieux auquel il faut devenir sensible. Donc aujourd'hui, je crois que nous sommes en débâcle.
Dans ce livre, vous réfléchissez aussi beaucoup, ou revenez autour de la notion de progrès. Est-ce que c'est ça aussi qui coïncide avec ce ressenti, cette notion de débâcle ? C'est que dans beaucoup de domaines, aujourd'hui, on ne voit plus de progrès, Isabelle Stengers, mais on voit que de la régression. Pourquoi ?
Mais le couple progrès-régression est un couple infernal. Et c'est une des, comment dirais-je, un des vices du progrès que de n'avoir laissé comme alternative critique que la régression. Des gens qui étaient inquiets et dont nous savons maintenant qu'ils avaient raison d'être inquiets, ô combien, ont été accusés de vouloir ramener les humains à l'âge des cavernes. Régression. Donc, on avait l'impression d'une voie unique, le progrès, et que toute contestation qui ne soit pas, au fond, progressiste elle-même, était une régression. Or, Whitehead, lui, pour revenir à lui, et c'est parce qu'il fait cette contre-proposition qu'il m'aide à penser, notamment, mais il ne parlera jamais de progrès, il parlera d'aventure. Et d'une aventure risquée. Et d'une aventure, quand on est dans une aventure, on apprend à faire attention. Parce qu'on sait les risques et on ne sait pas où ça mène. Simplement, il y a la passion de l'aventure. Il y a la passion de la pensée. Le progrès, lui, il nous mobilise. Il faut aller de l'avant ou alors on régresse. Et l'un des, comment dirais-je, ce que nous a apporté le progrès, c'est l'injonction de ne pas faire attention. Les choses devaient s'arranger parce que le progrès, comment dirais-je, nous permettrait de réparer demain ce que nous abîmions aujourd'hui. On a l'impression qu'aujourd'hui, on est en train d'avoir à payer à peu près toutes les dettes que nous avons accumulées, que ce soit du plastique, de la pollution chimique et le désordre climatique, tout ça présente la note et on ne sait pas avec quoi payer.
Vous parlez de réactiver ce sens commun aujourd'hui, on va voir comment. Mais dans quelles circonstances, juste pour comprendre encore ça, Whitehead, lui, parle de la défaite du sens commun. C'est quoi la défaite du sens commun?
C'était ça. L'un des sens du déclin, c'était cette défaite du sens commun. Et j'ai essayé de la réactualiser parce que pour lui, c'était quelque chose qui était pour lui moins vivant que ça ne l'est pour nous. Il la sentait déjà, mais il la sentait surtout à la manière, au fond, méprisante avec laquelle ses collègues traitaient les protestations, traitaient le « ça ne va pas ». Le « ça ne va pas » qui est justement un cri du sens commun. Il y a quelque chose qui ne va pas. Or, nous avons, depuis le néolibéralisme, en fait. Je veux dire, le sens commun, ce qui dit, mais vous êtes en train de détruire quelque chose de précieux, quelque chose qui pour nous fait la vie. On leur dit, oui, mais c'est comme, nous savons qu'il le faut. Il nous faut des réformes. Par exemple, les réformes ont en général été contre le sens commun. Au nom d'un impératif, je me souviens encore, pour moi c'est resté un mot qui s'est accroché dans mon cerveau, Pascal Lamy, qui était à cette époque-là, je sais plus quoi.
Commissaire,
ou... a dit, lors des premières manifestations, l'OMC n'existait pas encore, mais sur justement la liberté et la protection de l'investissement partout dans le monde, il y avait déjà des protestations, on n'arrête pas les horloges. Donc, le sens comme et l'ensemble des trouvailles intéressantes des sciences étaient présentées et sont toujours présentées comme allant contre le sens commun. Vous croyez, maintenant, nous savons. Donc, même les sciences, cette aventure de la pensée, ont été mutilées et empoisonnées par le fait qu'elles s'accompagnent de ce triomphalisme stupide de vaincre le sens commun. Et c'est l'ensemble de ces forces alliées pour qui le sens commun est quelque chose qui doit être surmonté au nom d'un savoir, au nom d'un universel quelconque, qu'il soit économique, scientifique ou intellectuel, qui, à mon avis, est peut-être l'un des dangers les plus terribles à notre époque. Parce que on n'humilie pas impunément. On n'humilie pas les gens en leur disant ce que vous savez ne vaut rien, ce que vous sentez comme important n'a en fait aucune importance. Vous devez vous détacher de cette importance. On n'humilie pas les gens sans qu'ils deviennent, sans qu'ils s'éloignent encore un peu plus du sens commun pour s'accrocher à de la haine, à du ressentiment. L'humiliation est ce qui guette. Par exemple, il me semble qu'on peut pas parler de Trump sans parler de l'humiliation du sens commun. Le fait que Trump ait pu dire que ses électeurs continueraient à voter pour lui, même s'il était filmé tuant quelqu'un en plein 5e avenue, on peut dire, ça y est, ils sont fous. Ils sont pas si fous que ça. Ils savent que le fait que, effectivement, ils continuent à dire nous allons voter Trump, ça c'était avant les élections, etc., veut dire ils savent à quel point ils vont choquer ceux qui les ont humiliés. Et donc, et là, on est dans une situation absolument vicieuse, évidemment.
Voilà, alors ce sens commun à réactiver, ce sens commun qui a été défait et que vous définissez aussi hein, au sens d'une dissolution de notre capacité d'objecter. On peut essayer de le décrire comme ça, comme un ressenti qu'on aurait, comme quelque chose qui relèverait de l'instinct et qui pourrait être une alternative à la rationalité des sciences. Hein. Vous êtes une philosophe des sciences, Isabelle Stengers. On est tout le temps à demander des preuves scientifiques pour tout aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait se faire plus confiance?
Mais la question, on demande des preuves pour tout? Non. Le « on », c'est l'État. si vous voulez déranger la machine économique, par exemple, si vous voulez parler de ce qui se passe sur Fos-les-Mers, par exemple, il vous faut des preuves. Les preuves, ça coûte cher, et les preuves... Et c'est entre ce que ces preuves demandent et ce que les gens vivent que le problème se propose. Je crois que... Et ça, c'est quelque chose de très important. On n'a pas de culture des faits qui font preuve. On ne peut pas penser ensemble qu'est-ce que c'est une preuve. C'est arrivé en ce qui concerne, par exemple, les mouvements des personnes atteintes du sida. Ils ont pu contester cela, les preuves qu'on demandait de la... comment dirais-je, de l'efficacité des médicaments dont ils avaient besoin. Donc, il y a des moments où les preuves sont contestées, les preuves de la nécessité absolue économique de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ont été contestées. Donc, il faut, pour moi, le sens commun, c'est pas une espèce d'attribut humain. Mon intention, c'est le sens commun, c'est quelque chose qui existe dans des collectifs, dans des milieux, et qui est varié, je veux dire. C'est pour ça que je parle de faire sens en commun. C'est-à-dire cette capacité aussi de se mettre à la place de l'autre, de comprendre pourquoi il voit les choses autrement, mais de voir que c'est la situation qui rassemble, qui doit être vu de tous ces côtés-là. Le sens commun, c'est quelque chose qui circule. C'est pas une quantité, c'est pas une qualité, on pourrait dire réactionnaire, régressive, etc. Non, c'est une capacité d'imaginer. Et Whitehead voulait réactiver, c'est-à-dire souder le sens commun et l'imagination. Et donc, ne pas s'arrêter à ce brave sens commun, mais enfin, ça défie le sens commun. Non, non, le sens commun, c'est la ressource qu'il faut réactiver aujourd'hui.
Et ça passe par un art de l'attention, vous l'écrivez aussi, Isabelle Stengers. Il s'agit d'un art de la voix moyenne, apprendre à vivre dans les ruines, c'est apprendre aussi à faire exister du sens en commun au sein d'un milieu tentaculaire où aucune signification, aucune convention n'est jamais acquise. C'est un art de l'attention et c'est peut-être aussi un art de la convention, de l'échange qui pourrait aboutir à un accord. Vous évoquiez Notre-Dame-des-Landes, on part écouter le témoignage d'un habitant de la ZAD.
Ici, il y a un rapport conflictuel avec le monde capitaliste qui est assumé. Et ça crée des vagues, du trouble. Et l'administration ne veut pas de vagues, ne veut pas de trouble. Et donc, voulait éliminer la ZAD. Et une façon de l'éliminer, s'ils ne pouvaient pas l'éliminer sur le terrain militaire, comme ça a été le cas pendant les expulsions, avec les tanks, les grenades, les milliers de gendarmes qui venaient raser nos maisons, eh bien, ils ont décidé de déplacer le conflit sur le terrain administratif, en exigeant de notre part des statuts individuels, des projets individuels, pour éclater en fait le collectif et atomiser les gens. Et puisqu'on était dos au mur, et bien on était obligé d'accepter ça, mais en se disant qu'on avait quand même une marge de manœuvre, qu'on était quand même justement fort d'être nombreux et ensemble, et que puisqu'ils voulaient des noms, on allait donner des noms, ça allait protéger notre lien à... Et nos activités, les cabanes, les lieux de vie, ça allait arrêter les expulsions. Donc on a fait ça, on a déclaré des noms, mais sans se cacher du fait que derrière ces noms individuels, il y avait des groupes en fait qui fonctionnaient ensemble et qui étaient interdépendants les uns avec les autres. Et je pense qu'on est en train de réussir ce qu'on peut appeler la deuxième manche de la lutte, c'est-à-dire en conservant un usage commun du territoire, des décisions communes, etc., et non pas une atomisation individualiste de nos vies.
Voilà. Conserver un usage commun du territoire, dit cet habitant, parce que beaucoup se posent la question, voilà, une fois que le projet de l'aéroport a été abandonné, pourquoi continuer et pourquoi maintenir cette expérience? Qu'en faire? Il parle d'usage commun. Qu'est-ce qu'il entend par là pour vous? Qu'est-ce que vous entendez, Isabelle Stengers?
Mais j'entends que l'usage commun était une manière de faire ancienne qui a été démantelée, détruite par ce qu'on a appelé la modernisation et le progrès. Il vaut mieux des agriculteurs qui reçoivent les consignes des agronomes et qui oublient le savoir qui était le leur et les savoirs en commun qui leur permettaient d'affronter les caprices, ce qu'on appelait les caprices de la nature. Et il valait mieux qu'ils consomment des pesticides et toutes sortes d'intrants pour annuler les caprices de la nature. Donc, on pourrait dire, ben voilà, il régresse, puisqu'il refuse tout ça, il refuse cette modernisation. Eh bien non, ce qu'ils font, c'est défendre et essayer de faire ressurgir, de recréer, de réinventer ce faire sens en commun. Et on voit à Notre-Dame-des-Landes à quel point ils sont conscients qu'ils le font non pas dans un milieu positif qui leur dirait « c'est merveilleux, on a besoin de vous, on a besoin que les gens se réapproprient la capacité de faire dans des milieux, agités et imprévisibles ». Non, non, on ne dit pas du tout ça, on ne nous dit pas du tout ça. Ils sont dans un milieu hostile où leur seule manière de survivre, c'est de faire semblant de se plier à cette atomisation. C'est exactement le point critique où nous nous situons. Je crois que beaucoup de gens sentent que s'ils ne se réapproprient pas les moyens de penser ensemble, les moyens de faire ensemble, les moyens d'inventer, d'imaginer ensemble, ils sont foutus. C'est ce que j'ai appelé la barbarie il y a un certain temps. Et l'ensemble du milieu étatique, surtout en France, dit non. Tout ce qui va dans ce sens, tout ce qui va dans le sens de cette réappropriation est vu comme, à l'encontre de l'ordre public et contre l'État et ses responsabilités. Donc, je crois que quelque chose comme Notre-Dame-des-Landes est vraiment un des points où, pas le point où se joue notre avenir, il se joue rien du tout à l'échelle des problèmes de notre avenir, mais un des points où la lutte pour comment nous regardons notre avenir, comment nous le prenons, est en jeu.
Invitée jusqu'à 13h30, la philosophe Isabelle Stengers à l'occasion de la parution de son « Réactiver le sens commun », lecture de Whitehead en temps de débâcle. C'est aux éditions La Découverte, dans la collection Les Empêcheurs de penser en rond, et on est heureux d'ouvrir cette première grande table des essais de la rentrée de janvier avec vous. France Culture, il est 13h20.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Alors, il n'y a pas que Whitehead pour stimuler votre réflexion, Isabelle Stengers. Vous faites aussi à plusieurs reprises référence à d'autres penseurs comme Deleuze ou Guattari, avec notamment la triple catastrophe écologique telle que l'avait pensé Guattari et en quoi elle peut nous éclairer cette idée d'involution. Autre personne qui compte pour vous, c'est Donna Haraway, autour de la question de la responsabilité. J'aimerais bien m'arrêter à un moment avec vous sur ce point. La responsabilité telle qu'elle l'a définie, ce serait être capable de répondre devant ceux qui vont prendre en pleine figure les conséquences de ce qu'on a appelé le fameux progrès. Voilà ce que vous nous expliquez, Isabelle Stengers. Comment serait-il dès lors responsable, à vos yeux, de penser l'avenir aujourd'hui ?
Mais la responsabilité, souvent on l'entend au sens judiciaire. Vous êtes responsable. Et plein de gens diront, mais non, je n'ai fait que ce que tout le monde fait. Et de toute façon, notre société, les puissants ne seront jamais responsables parce que les systèmes de diluer les responsabilités jusqu'à ce que ça tombe sur le pompiste sont tout à fait au point. Donc, responsabilité, comme ça veut dire être capable. Il faut entendre habilité, c'est-à-dire capacité, être capable de penser devant les conséquences. Les Iroquois, dit-on, dans leurs décisions, pensaient ce qu'ils avaient à décider devant 6 générations inconnues. Donc ça veut dire que l'imagination de la conséquence était un devoir. L'imagination des conséquences. Or, ce que la modernité nous a dit, c'est que le progrès prenait en charge les conséquences. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas à penser aux conséquences. La Tour, que je cite beaucoup, dit que, en fait, a écrit que les modernes, comment dirais-je, ne regardent pas vers ce qu'ils appellent le progrès, vers l'avenir. Ils fuient à reculons. Ils fuient à reculons parce que ils fuient devant ce qui menacerait de les faire régresser, devant le monstre qui les poursuit et qui les empêcherait d'avancer. Donc, c'est ce thème de la responsabilité répond à un effort de l'imagination, mais une imagination qui n'est pas individuelle, qui doit être collective, qui correspond à ce faire sens en commun ou ce faire attention. Faire attention, c'est pas être prudent, attention, c'est être imaginatif, c'est-à-dire vivre dans un monde incertain, un monde qui ne nous a rien promis, un monde où ce qui est décidé, ce qui est préparé, ce qui est fait, doit être fait sur un mode qui donne à ceux qui participent à cette fabrication la capacité d'affronter l'imprévu. Et c'est bien ce qu'on nous demande aujourd'hui, enfin c'est bien ce que cette époque nous demande, c'est-à-dire comment non pas s'accrocher à ce qui est, mais comment diagnostiquer l'ensemble des mécanismes qui nous empêchent de devenir. Ce que Notre-Dame-des-Landes fait très bien. Ils sont vraiment un opérateur de diagnostic sur ce qui fait que l'agriculture, notamment, est censée rester ce qu'elle est, productiviste, individualiste et destructrice de l'environnement. Ils nous le font savoir. C'est une lutte et c'est une réappropriation.
Alors Bruno Latour, que vous citiez, autre philosophe qui a aussi compté pour vous et qui compte encore aujourd'hui. D'ailleurs, vous dites que c'est lui qui vous a invité à retravailler votre précédent texte « Civiliser la modernité, point d'interrogation, Whitehead et les ruminations du sens commun » qui était paru en 2017 et qui donne donc aujourd'hui ce livre beaucoup plus abouti pour vous dans cette réflexion autour du penseur britannique et mathématicien Whitehead, « Réactiver le sens commun ». Bruno Latour, lui, il a signé, on s'en souvient, Où atterrir, où il redonne une place à l'Europe. Vous disiez la France tout à l'heure, comparée à votre Belgique. Est-ce que l'Europe est pour vous aussi le bon espace, le bon territoire pour envisager une résurgence des communs? Écoutez.
Cette classe ouvrière, elle a changé de sens. On le disait tout à l'heure à propos de l'analyse économique. Donc la difficulté maintenant, c'est de redéfinir ce que j'appelle les classes géosociales. C'est toujours une lutte de classes. Mais c'est des classes qu'il faut appeler géosociales, c'est-à-dire à la fois, et vous avez vous-même milité pour ça il y a bien longtemps, c'est-à-dire des classes qui sont où on ne puisse plus dire, comme on continue à le dire, il faut choisir entre l'économie et l'écologie, le développement et l'écologie, parce qu'on parle du même territoire. Jusqu'à Trump, il faut reconnaître que ce n'était pas clair, que c'est une question de territoire, que c'est une question d'occupation du sol. Et évidemment, les Français le savent, mais pas par la crise écologique, ils le savent par la migration. C'est la crise migratoire qui traduit, mais évidemment de façon tragique, le fait qu'il y a des gens qui perdent leur sol, qui perdent leur appartenance au territoire, et en un certain sens, nous aussi, nous les Français, même les Français riches, le territoire sur lequel nous sommes, eh bien, il est en train de changer.
Voilà, Bruno Latour, là c'était sur la distinction et l'importance d'imbriquer aussi le social et l'écologie.
Ah,
et c'est très important. Je voudrais quand même vous faire écouter la deuxième partie de sa réponse sur l'Europe.
Ben, elle a plein de défauts, mais elle a l'avantage de ne pas être une nation et en même temps d'être l'intersection d'une multitude d'intérêts et de pays, de paysages aussi, de villes totalement différentes. Donc il y a quelque chose qui se joue en Europe qu'on comprend très mal quand on parle de l'Europe simplement comme Bruxelles et le machin, disons, institutionnel, mais c'est aussi un territoire. Et c'est un territoire où les questions de société, les questions d'État-providence, les questions d'industrie, d'innovation et les questions d'agriculture n'ont pas été complètement saccagées. Même si la raison pour laquelle c'est pas saccagé, c'est parce qu'on en a saccagé chez les autres. C'est le problème postcolonial, évidemment, qui revient. Et de nouveau, la question de l'immigration et la question du racisme devient centrale. Donc il se passe quelque chose en Europe que je trouve que la gauche a très mal ressenti, disons. L'Europe, c'est l'équivalent, j'ose à peine le dire, de ce qu'a été le sentiment de la patrie, disons. Il y a une patrie européenne, en quelque sorte. Ou une matrie, je ne sais pas comment dire, une fratrie, je ne sais pas quel est le mot exact. Et c'est cette présence-là qu'il faut chérir et protégé, parce que c'est le seul espace, disons, qui échappe, du point de vue écologique aussi, qui est à la bonne taille. C'est à la bonne taille, en même temps, c'est pas l'État-nation. Donc je trouve que la question européenne doit redevenir centrale pour la définition de la gauche.
Voilà, il a dit beaucoup de choses du coup, Isabelle Stengers, et vous ne pourrez pas réagir à tout sur la question de l'Europe aujourd'hui. Vous qui plaidez pour une résurgence des communs, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est un territoire, un espace où peut advenir une réflexion commune ?
Je n'en sais rien du tout. Ce que je sais, c'est que j'habite en Europe. Quand j'ai été aux États-Unis, déjà très jeune, je me suis dit je ne vivrai jamais là. C'est en Europe que je suis. Je suppose que d'autres diraient tout se passe, tout se joue malheureusement d'ailleurs aux États-Unis. D'autres diraient en Amérique du Sud, d'autres en Asie. Je crois que chacun doit se dire ça se joue autour de nous, avec nos moyens. Bruno a très bien dit quels sont nos moyens européens, et effectivement le fait que nous puissions commencer à penser ce que nous avons fait quand nous avons été les puissances colonisatrices du monde, que nous puissions continuer à le penser et à en apprendre, est une des forces européennes. Le fait que nous ayons à accueillir des migrants venus de partout, et notamment des anciens pays colonisés, est un des problèmes avec lesquels il faut travailler. Donc nous avons du pain sur la planche, je ne sais pas si nous sommes privilégiés. Par contre, l'idée est de ne pas dire ça se passe ailleurs. Non, réactiver le sens commun, réactiver nos capacités de répondre de ce que nous sommes capables de penser, c'est quelque chose qui se fait là où on est et avec ceux avec qui on peut penser.
Et en construisant des dispositifs et des mécanismes que vous appelez génératifs, avec un statut particulier peut-être à donner à ces lieux où l'on expérimente d'autres manières de vivre ensemble. C'est une question que vous posez dans ce livre, Isabelle Stengers, et on la laissera ouverte. Que peut-on fabriquer aujourd'hui qui puisse être éventuellement ressource pour ceux qui viennent? C'est la question que nous devons peut-être tous nous poser en ce début d'année 2020. Merci beaucoup à vous d'être passé autour de cette grande table.
Merci beaucoup.
D'être venu ouvrir cette nouvelle saison avec nous, Isabelle Stengers, Réactiver le sens commun. Votre livre vient de paraître dans la collection Les Empêcheurs de penser en rond à la découverte. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Jean-Christophe Brianchon et Oriane Delacroix pour leur programmation, à Henri Leblanc et Mathilde Tonfourcade pour la préparation de l'émission, avec Jeanne Copé et Sophie Marty. À la réalisation aujourd'hui, c'était Gilles Blanchard, avec YouTube Diego Aclopez et Morgane Danan. Je vous souhaite un très bel après-midi sur France Culture. À demain, peut-être, autour de la Grande Table.